Les pieds dans le parc, une chronique du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, réalisée par Fréquence 7 et RCF, en partenariat avec InfoRC et RDP, et soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Tout d'abord, considéré comme un progrès, l'éclairage artificiel de nos villes et villages est devenu depuis quelques années sujet de réflexion, parfois de rejet, au point de parler de pollution lumineuse. C'est pourquoi le parc naturel régional des Monts d'Ardèche se saisit de ce sujet et vient d'entamer une campagne de cartographie de cette pollution lumineuse. Ainsi, deux types de mesures se font actuellement sur le territoire. Les données de radiance satellitaire qui permettent un aperçu depuis le ciel et les données de terrain que mesure un petit appareil appelé le Ninox. Explication en compagnie de Pascaline Roux, chargée de mission énergie climat au parc des Monts d'Ardèche.
Donc le Ninox, on va les découvrir.
Donc il est juste entre les deux arbres.
Voilà. Et donc là on est à Fabras.
Nous sommes à Fabras, au hameau des Soulés, chez Marc, qui a bien voulu accueillir cet appareil de mesure, qui est tout petit, hein, c'est un tout petit cylindre de 30 cm de haut, qui est posé donc à la verticale et qui mesure automatiquement. Et donc il va mesurer la pollution lumineuse. Donc il va pouvoir cartographier cette pollution, repérer si on est sur plutôt un ciel étoilé de qualité ou si on est encore gêné par quelques lumières artificielles. Et dans ces cas-là, ça va nous aider à voir quelles mesures d'amélioration on peut mettre en place pour avoir une qualité de ciel encore plus belle.
Ouais. Si on choisit ce lieu, c'est parce qu'il est quand même assez retiré. Là, on est quand même en campagne. On aurait pu le mettre ailleurs. Et pourquoi ce lieu-ci ?
Alors ici, on est plutôt sur un caractère assez représentatif des Monts d'Ardèche. On est à la fois en campagne, mais à côté d'un hameau. Donc on sait qu'on a de nombreux hameaux sur le territoire qui sont souvent éclairés. Donc on est assez représentatif. Mais l'idée, c'est pas de s'arrêter à cette mesure-là. Hein, c'est de continuer à mesurer sur un an à différents lieux sur le territoire des Monts d'Ardèche. Peut-être aller un peu plus vers l'ouest, un peu plus vers le Tanargue, là où a priori il n'y a pas de pollution lumineuse. Et aussi se rapprocher plutôt des centres urbains, vers Privas, Aubenas, pour avoir l'impact de la pollution lumineuse la nuit.
Donc ici à Fabras, on ne le laisse pas une année ?
Non, on va le laisser normalement 3 semaines, 4 semaines sur un cycle de lune complet.
À la sortie de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de ces données ?
Donc on va les compiler. L'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble de notre ciel étoilé, voir si on a un ciel de qualité que l'on pourrait valoriser au niveau touristique, hein, si on pourrait clairement communiquer sur ce ciel étoilé pour les astronomes amateurs, mais pas que. Hein. Et à la fois aussi nous donner des pistes sur des secteurs qui sont peut-être trop éclairés, des pistes d'amélioration, changer des lampadaires par exemple, supprimer des points lumineux. On peut aussi éteindre l'éclairage public une partie de la nuit. Donc tout ça sont des mesures d'amélioration que l'on peut mettre en place. Et le Ninox va nous dire un petit peu les secteurs à enjeu, les secteurs un peu tendus où vraiment il y a beaucoup trop de points lumineux au regard du nombre d'habitants.
Est-ce qu'il y a d'autres finalités que celle-ci derrière ça ? Est-ce qu'il y a des finalités de biodiversité ou autre ?
Alors il y a plusieurs enjeux autour de la pollution lumineuse. Il y a tout d'abord un enjeu de biodiversité, mais ce sont des enjeux que l'on mesure depuis assez longtemps sur ces effets négatifs. On a de plus en plus d'études aussi qui montrent de liens avec la santé humaine, notamment des problèmes de troubles de sommeil et d'insomnie. Quand on est trop dans un secteur éclairé, on a le corps nous sécrète un petit peu moins de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc on a des liens qui commencent à être faits avec l'obésité, avec certains cancers. Donc la question de la pollution lumineuse est importante. Et on a aussi un enjeu énergétique. On parle aujourd'hui beaucoup du dérèglement climatique. 2019 était une des années les plus chaudes et on se doit de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc notre consommation énergétique. Et l'éclairage public la nuit peut permettre aussi de réduire cette consommation énergétique et aussi la consommation économique de nos collectivités.
Donc plusieurs finalités qui rejoignent un peu les enjeux aussi du parc naturel régional des Monts d'Ardèche.
Tout à fait, on est 8 parcs des Monts d'Ardèche du Massif Central à bénéficier de cette étude, hein, qui est portée par le réseau IPAMAC, donc le réseau Interparc du Massif Central. On aimerait vraiment se mettre ensemble pour travailler sur ces questions-là et voir si vraiment on a un ciel de qualité, pourquoi pas créer une réserve à l'échelle du Massif Central, réserve de ciel étoilé.
Tournons-nous à présent vers Denis Hudréa de l'association Clair d'Étoiles et Brins de Jardin qui regroupe entre autres des amateurs d'astronomie. Voyons avec lui si la pollution lumineuse existe en Ardèche.
Ah oui, elle existe, elle est indéniable. Tous les astronomes peuvent vous le dire. Systématiquement, ça revient à éteindre les étoiles. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les étoiles et on ne peut plus les photographier.
Ce qu'on pouvait faire il y a encore un certain temps.
Alors ça s'explique très bien. La lumière d'une étoile, c'est très faible. C'est l'équivalent de la lumière d'un briquet ou d'une bougie placée entre 400 et 700 mètres. Il suffit qu'il y ait juste un petit peu de lumière parasite autour et on ne voit plus cette bougie, on ne voit plus ce briquet. Et les étoiles les plus faibles sont même 100 fois moins lumineuses que ça.
Est-ce que c'est vraiment très très récent? Ça remonte à combien de temps qu'on a pris conscience de cette pollution lumineuse?
Alors, je dirais quelques dizaines d'années, ne serait-ce que depuis 1980, on a quasiment doublé l'intensité de l'éclairage urbain ou des éclairages publicitaires ou autres. C'est effectivement récent. On a été obligé de fermer pas mal d'observatoires d'ailleurs, des observatoires professionnels ont dû cesser leur activité parce qu'ils étaient incapables de prendre des photos ou de faire des observations visuelles correctes.
Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un lieu absolument très dégagé de toute lumière pour regarder le ciel vraiment à 100%. On l'a peut-être jamais à 100% d'ailleurs.
Non, on l'a jamais à 100%. Et puis ça dépend des objets que l'on veut observer. Si on veut regarder les grosses planètes ou la Lune, on peut faire ça en ville, même en pleine lumière. En revanche, dès qu'on veut voir ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire les galaxies, les nébuleuses, là, il faut vraiment une nuit de très très bonne qualité. Il faut absolument aucun éclairage. Les pires d'ailleurs sont les éclairages urbains modernes qui utilisent les LED parce que ça coûte moins cher, certes, mais ça éclaire beaucoup dans le domaine du bleu, et nos yeux, et ainsi que les systèmes photographiques, sont très sensibles à la lumière bleue.
De ce fait, si je suis dans un endroit comme nous sommes ici, à Fabras, où il y a très peu d'éclairage de nuit, qu'est-ce que je peux voir dans ce mois de février? Qu'est-ce que je vais voir?
Ici, comme tous les hivers, il y a quand même des choses magnifiques à regarder. Le soir, au sud, on voit la constellation d'Orion, c'est une magnifique croix, avec tout en bas une petite tache qui ressemble à un nuage laiteux. C'est une pépinière d'étoiles. C'est un nuage où sont en train de naître de jeunes étoiles. Et ça se voit quasiment à l'œil nu, bon un petit peu mieux avec des jumelles. On peut voir aussi la galaxie d'Andromède, toujours pareil avec des jumelles. En début de nuit, on voit très bien la planète Vénus, très très brillante. Alors que le matin, on peut contempler Mars, qui est une jolie perle rouge, juste à côté de l'étoile Antares, qui est aussi une belle perle rouge. Il y a les deux rivales qui se renvoient la balle. Donc ici, on voit de très très belles choses.
Il y a une technique pour mieux voir? Je crois qu'il faut éviter toute lumière forte quelque temps avant.
Oui, il faut compter environ une vingtaine de minutes pour que la vision nocturne soit opérationnelle. La nuit, on voit essentiellement avec ce qu'on appelle les cônes. Ce sont des cellules de notre rétine qui sont extrêmement sensibles, sont 100 fois plus sensibles que celles qui nous permettent de voir la couleur. En revanche, dès qu'on les éclaire, et ben pendant 15 à 20 minutes, elles sont quasiment aveugles.
Il y a déjà des lieux sur le territoire du parc où l'on coupe la lumière le soir?
Oh, il y en a pas mal. Bon, je ne les connais pas tous, hein. Je ne serais pas capable de les recenser. Bon, je vais citer rapidement Prunet, je suis certain qu'ils éteignent. À Roc, ils éteignent. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas la liste exacte.
Donc on est dans le bon sens?
On est dans le bon sens, oui, on progresse.
Heureusement, car selon Marc Lutz, responsable du service biodiversité au parc des Monts d'Ardèche, lumière nocturne et biodiversité ne font pas toujours bon ménage.
Oui, tout à fait, ça fait pas toujours bon ménage, en effet, parce que on sait qu'il y a quand même beaucoup d'espèces sur le territoire des Monts d'Ardèche qui sont nocturnes ou qui sont crépusculaires et qui ont donc besoin de conditions de pénombre particulières pour pouvoir accomplir justement ce cycle de vie. Évidemment, alors le territoire des Monts d'Ardèche, c'est pas la banlieue d'une grande ville, donc on n'est pas à des degrés de pollution lumineuse qui sont très très élevés, mais pour autant, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur pas mal de nos espèces.
Alors quel type d'espèces? Justement, moi je pense tout de suite aux papillons qui se jettent souvent vers la lumière.
Oui, alors les papillons sont attirés, aveuglés par la lumière et c'est vrai qu'on a tous vu autour de lampadaires le soir des papillons qui tournaient. Et puis souvent, ce qu'on voit moins parce qu'on y prête moins attention, c'est que le lendemain matin, on peut trouver ces papillons qui sont morts au pied des lampadaires. Alors c'est vrai que sur les invertébrés, hein, sur les papillons, ça a un vrai impact, ça a un impact sur les insectes d'une manière générale. Hein. On parle aussi des vers luisants par exemple, dont en fait le signal lumineux correspond à des stimulus sexuels, hein, qui c'est en fait les individus qui s'éclairent lumière pour être repérés par leurs partenaires. Évidemment, si on n'a pas des conditions de pénombre optimales, eh ben, ça va créer des difficultés justement pour que les individus puissent se retrouver. Et ça peut compromettre la reproduction de cette espèce.
Alors celle-ci, après, chez les vertébrés, du coup, est-ce que ça joue aussi?
Alors bien sûr, ça joue aussi. On sait par exemple qu'il y a certaines espèces de chauves-souris, comme le grand rhinolophe par exemple, qui ont vraiment besoin de conditions d'obscurité quasi totale pour pouvoir chasser et qui sont gênées dès lors qu'il y a une lumière un petit peu parasite. C'est aussi le cas pour certaines espèces de rapaces par exemple. Hein, je pense au groupe des chouettes, des hiboux, qui peuvent être gênées par des conditions de lumière un petit peu inhabituelles, non seulement pour leur chasse, mais aussi parce que la lumière va réduire leur territoire de chasse. C'est-à-dire que autour d'un village où une chouette, culotte par exemple, a l'habitude de chasser, dès lors qu'il y a de la lumière, on va trouver peut-être moins d'invertébrés, c'est-à-dire moins de micro-mammifères, donc de souris, enfin de proies pour le rapace, et donc elle va devoir aller chasser ailleurs, elle va devoir prospecter un territoire plus grand, plus vaste, pour pouvoir trouver le nombre de proies suffisant justement pour pouvoir subsister.
Alors est-ce qu'on a déjà du recul justement, puisque tout à l'heure je parlais avec Denis Hydrea, du fait que cette pollution lumineuse existe maintenant, on va dire depuis bientôt un demi-siècle, est-ce qu'on a du recul là-dessus?
Alors oui, on a un certain recul, mais je dirais que c'est quand même la thématique de la pollution lumineuse, elle est plutôt récente dans le monde de la recherche scientifique et dans le monde de la recherche scientifique en lien avec la biodiversité. Donc il y a beaucoup d'études qui sont actuellement en cours, mais on n'a pas encore, je dirais, la durée d'études et le recul scientifique pour pouvoir mettre en avant des résultats vraiment très très globaux et très larges. Mais pour autant, les espèces que j'ai pu citer, les rapaces, les insectes, tout ça, on a quand même des publications scientifiques qui montrent clairement que la lumière artificielle, la pollution lumineuse, a un vrai impact sur leurs mœurs.
Il faudrait donc complètement éteindre ?
Non, c'est pas une question peut-être de complètement éteindre, mais d'être un petit peu plus sobre sur cette lumière. On pourrait déjà atténuer largement la pollution lumineuse et rendre des milieux plus attractifs, tels qu'ils l'étaient il y a quelques années, sûrement pour la biodiversité.
Si vous souhaitez participer à cette campagne de cartographie lumineuse, sachez que vous pouvez accueillir chez vous, dans votre jardin, si votre commune se situe sur le territoire du parc, le fameux Ninox, qui calcule la luminance du fond du ciel, et cela dès le coucher du soleil. Pour cela, faites-vous connaître auprès du parc des Monts d'Ardèche. C'est à Jaujac.
Les pieds dans le parc. Une chronique du parc naturel régional des Monts d'Ardèche.